Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Bernard de Cotigny.
Le pape François a reçu ce samedi une délégation du patriarcat de Constantinople à l'occasion de la fête de Saint-Pierre et Saint-Paul, l'occasion de rappeler la nécessité de cheminer ensemble sur la route menant à une pleine unité des chrétiens. Nous reviendrons ensuite sur l'affaire Lambert, la fin de vie et l'euthanasie avec Mgr Potvin, le porte-parole de l'Église de France. Nous évoquerons aussi le centenaire de l'assassinat à Sarajevo de l'archiduc autrichien François Ferdinand, prélude à la Première Guerre mondiale. Nous donnerons enfin la parole au père Bernard Dupuis-Montbrun, aumônier de prison et invité du livre pour Dieu de sœur Catherine Aubin, et le commentaire bien sûr de l'évangile de ce dimanche avec le père Pascal Montavis. Une délégation du patriarcat de Constantinople a donc été reçue ce samedi matin par le pape François au Vatican à l'occasion de la fête de Saint-Pierre et Saint-Paul que l'Église célèbre ce dimanche. Cette délégation était menée par le métropolite Jean de Pergame, co-président de la commission mixte internationale pour le dialogue entre catholiques et orthodoxes. À cette occasion, le pape est revenu bien évidemment sur ses récentes rencontres avec le patriarche Bartholomée pour mieux saluer le chemin parcouru ensemble. Olivier Bonnel.
Les récentes rencontres que j'ai eues avec le frère aimé Bartholomée sont encore vivaces dans mon esprit et dans mon cœur, a souligné le pape en accueillant chaleureusement la délégation. François est en effet revenu sur sa rencontre récente à Jérusalem avec le patriarche de Constantinople, qui ont commémoré l'accolade historique de leurs prédécesseurs Paul VI et Athénagoras, 50 ans plus tôt. Ce geste prophétique a donné une impulsion décisive à un chemin qui, grâce à Dieu, ne s'est jamais arrêté, a précisé le pape, qui a évoqué ce don spécial du Seigneur qui est d'avoir pu prier ensemble et unis sur le lieu du sépulcre du Christ. Cette joie de la rencontre s'est poursuivie lors de l'invocation pour la paix en Terre Sainte dans les jardins du Vatican, en présence des présidents israéliens et palestiniens. Le Seigneur nous a donné des occasions de rencontres fraternelles dans lesquelles nous avons eu la possibilité de manifester l'un à l'autre l'amour du Christ qui nous lie et de renouveler la volonté partagée de continuer à marcher ensemble sur le chemin vers la pleine unité, a expliqué François. Le pape a également prié pour que la commission mixte internationale entre catholiques et orthodoxes puisse être l'expression d'une compréhension profonde de cette théologie faite à genoux. Ainsi, a-t-il précisé, toutes les réflexions sur la communion dans l'Église, la synodalité, le ministère de l'évêque de Rome ne seront plus un exercice académique ni une simple dispute entre des positions irréconciliables.
Et ce dimanche, le pape François célébrera donc la messe de la solennité de Saint-Pierre et Saint-Paul en la basilique Saint-Pierre, en présence de la délégation du patriarcat de Constantinople, une messe au cours de laquelle les archevêques métropolitains nommés dans l'année reçoivent le pallium des mains du pape. Ils devaient être 27, ils ne seront que 24 présents, et parmi eux, l'archevêque de Besançon, Mgr Bouilleret. A noter que ce samedi matin, le pape a également reçu le président de Madagascar, Eri Rajanohari Mampianin, accompagné de sa nombreuse famille. Ce sont les thèmes de la pauvreté et des inégalités sociales qui ont été au cœur de leur entretien. Le pape a aussi encouragé le processus de réconciliation nationale et la stabilité politique du pays. En France, cette semaine a été marquée par ce que l'on appelle l'affaire Lambert. La Cour européenne des droits de l'homme a demandé mardi soir le maintien en vie d'un Français tétraplégique en état végétatif dont le sort déchire la famille depuis des années, contredisant un jugement de dernier ressort du Conseil d'État, la plus haute juridiction administrative française, qui avait rendu une décision inverse. Dans le même temps, la justice française a quitté mercredi Nicolas Bonnemaison, un médecin urgentiste poursuivi pour avoir abrégé la vie de 7 patients en phase terminale. Nous avons recueilli la réaction de Mgr Bernard Potvin, porte-parole des évêques de France. Nous l'écoutons.
Il faut que nous nous saisissions tous de cette inquiétude très grande. Au-delà de l'affaire Lambert, il y a vraiment à redire à quel point la vie est plus grande que nous tous. Elle est toujours plus grande que ce que nous pouvons en dire, qui que nous soyons. Et nous devons la servir, nous devons l'honorer jusqu'au bout, notamment dans nos frères les plus fragiles. Et je crains fort que dans les polémiques qui sont actuellement en cours, on oublie cet aspect essentiel.
Que, selon vous, nous révèle la décision du Conseil d'État ?
Ce qui m'inquiète dans la décision du Conseil d'État, c'est qu'elle est en train d'amalgamer à de l'acharnement des fonctions qui me semblent être des fonctions de civilisation. Hydrater quelqu'un, c'est quelque chose que nous devons faire toute notre vie et que nous ferions même à un ennemi. On hydrate quelqu'un jusqu'au bout, on humecte ses lèvres, on est à ses côtés humblement, avec des gestes qui sont souvent, hélas, impuissants, mais qui sont des gestes d'amour. Je crains qu'à travers ces décisions qui sont prises, il y ait une confusion très grande, que l'on donne le nom d'acharnement à ce qui n'en est pas. Et l'Église catholique n'a jamais plaidé non plus pour un acharnement qui serait un acharnement inconscient. Mais le plaidoyer de l'Église catholique, c'est vraiment la présence palliative, surtout pas de suicide assisté ou tout ce qui ressemblerait à ça. C'est la présence palliative auprès du frère souffrant jusqu'au bout, humblement, sans jamais décréter quoi que ce soit de son départ. Et cette grandeur de la vie, cette grandeur de la vie est tellement importante, quelles que soient nos convictions religieuses, quelles que soient nos appartenances. Et je crains que la décision qui a été prise là, par le procès d'État, ne banalise des choses qui, malheureusement, sont déjà très présentes dans l'opinion publique. La conception même de la dignité, de la manière de mourir, est souvent confuse. Aujourd'hui, on dit que l'on va mourir dans la dignité, mais de quelle dignité parle-t-on ?
Vous craignez que cette décision du Conseil d'État, qui concerne pour l'instant ce seul cas, Lambert, ne fasse jurisprudence ?
Effectivement, on pourrait le craindre. Dieu merci, ce n'est que sur un cas, comme vous le dites. Mais je constate que non seulement les proches de Vincent Lambert sont déchirés, je constate aussi qu'une instance supérieure comme un Conseil d'État ne parvient pas seule à discerner avec sagesse, puisqu'il y a ce recours à une instance européenne. Ça montre bien que, quel que soit le niveau de l'instance, aussi élevé soit-elle, quand il s'agit de la vie, on ne doit pas avoir la main sur la vie. Qui que l'on soit, quel que soit le niveau institutionnel que l'on est, on est tout petit devant l'existence. Et pour moi, il y a là un enseignement philosophique et spirituel qui est très important. Si les proches de Vincent eux-mêmes ne sont pas d'accord, ça montre bien que ces affaires sont douloureuses, elles sont complexes. Personne ne doit donc décréter du jour et de l'heure du départ de quelqu'un. Par contre, il faut bien sûr beaucoup d'humanité, énormément d'humanité, beaucoup d'atténuation des douleurs tant que la personne est présente. Et il faut bien sûr là y mettre, je dirais, tout ce qui peut être fait pour que ce soit supportable et que ce soit quelque chose de vécu dans la fraternité. Les évêques de France, quand ils s'expriment sur le sujet, rappellent qu'il ne faut pas que la mort soit individualisée. Il faut pas être seul. Quand, hélas, on va vivre le grand passage, il faut le plus possible qu'il y ait une fraternité et une présence auprès de celui qui s'en va.
Une page histoire. Ce samedi, l'Europe se rappelait de l'assassinat à Sarajevo il y a 100 ans de l'archiduc autrichien François Ferdinand, héritier du trône d'Autriche-Hongrie et de sa femme. Cet acte est à l'origine de la Première Guerre mondiale, un conflit qui a entraîné la disparition des empires austro-hongrois, russes, allemands et ottomans et redessiné la carte de l'Europe et du Proche-Orient, consacrant aussi la nouvelle puissance américaine et favorisant l'arrivée des bolcheviks au pouvoir en Russie. Saint Pie X, dont on célèbre cette année le centenaire de la mort, a été profondément marqué par l'éclatement de cette Première Guerre mondiale. Deux mois à peine après l'attentat à Sarajevo, il devait lancer le 2 août 1914, dans son exhortation Dum Europa, un vibrant appel mettant en garde contre les conséquences dramatiques du conflit. C'est ce qu'explique à Hélène Destombes le père Bernard Ardura, président du Conseil pontifical des sciences historiques.
L'éclatement de la Première Guerre mondiale a hâté la mort du pape. Le pape déjà était dans une situation sanitaire affaiblie, mais certainement que ce choc a été considérable, car à la différence des chefs d'État et de nombreuses populations où les sentiments nationalistes étaient exacerbés, le pape a eu le pressentiment que la guerre qui commençait serait une guerre terrible. Tandis que la plupart des pays qui sont partis en guerre avec la certitude de la victoire, avec la certitude que ce serait une guerre de mouvement, avec la certitude que ce serait une guerre brève. Et ils se sont trompés sur tous les plans. Et c'est cette guerre que Benoît XV qualifiera d'inutile massacre. Eh bien, on peut penser que Saint Pie X a eu l'idée, la perception que cette guerre, ce conflit serait un tournant considérable. Et de fait, on peut dire que le XIXe siècle, avec la Belle Époque, car il a été pape au moment de ce qu'on appelait la Belle Époque, c'est la fin du XIXe siècle avec la Première Guerre mondiale.
Et retrouvons Sœur Catherine Aubin et son livre pour Dieu. Cette semaine, il nous emmène en prison. Son auteur y est depuis 44 ans. En effet, le père Bernard Dupuis-Montbrun est aumônier titulaire au centre de détention de Muret. Dans cet ouvrage, il répond aux questions de Véronique Dufief et nous livre un regard intériorisé sur le monde carcéral avec une simplicité retenue et une grande profondeur. Le père Bernard nous offre son expérience d'aumônier et d'apôtre de la miséricorde.
Le livre pour Dieu cette semaine nous emmène en prison. Le titre de ce livre, 44 ans en prison, son auteur, le père Bernard Dupuis, aumônier, nous lui avons tout naturellement demandé quelle est sa mission dans les prisons.
Si vous voulez, la prison, c'est le microcosme d'une société où le bien et le mal sont en conflit. Et alors, dans un manque de liberté, avec des contraintes, où la violence est toujours possible. Donc dans ce contexte-là, notre mission est une belle mission. C'est vraiment celle d'un aumônier qui est apôtre de la pénitence, comme je l'ai écrit. Et ce combat consiste à discerner dans le cœur de celui qui nous fait confiance quel est l'espace de liberté qui lui reste encore pour essayer de lui donner, sinon du courage, en tout cas une possibilité de choisir sa pénitence. Car la pénitence ne peut se vivre que dans la liberté, un minimum de liberté. Il faut bien la choisir. La peine se subit, mais la pénitence se choisit. Et tout le combat de l'aumônier consiste à lui faire comprendre que la pénitence n'est pas une condamnation supplémentaire, mais au contraire une manière de se regarder autrement. Et surtout, de gagner la nécessaire distance qu'il faut avoir entre son crime et ce que l'on est.
Le titre de votre livre, Père Bernard, 44 ans en prison. Pourquoi et comment êtes-vous arrivé à être aumônier de prison?
Oui, c'est une belle question, parce qu'en réalité, le titre est un petit peu coquin. Cela veut dire que, concrètement, j'ai été 22 ans visiteur de prison, et j'ai été nommé aumônier au centre de détention du Muret à partir de 1992. Je le suis encore, donc ça fait un petit peu plus de 44 ans. Il faut savoir que, d'ailleurs je le dis au début du livre, j'ai eu une curieuse histoire, puisque quand j'étais au séminaire, j'avais 20 ans, et là, j'ai tout de suite été en contact avec des délinquants. Mais on m'avait demandé d'aller donner des cours en prison, leur apprendre à écrire et à lire. Et comme je le raconte dans mon livre, j'ai pas dit non. Et à partir de là, j'ai vécu une aventure avec eux. Mais il y a un point sur lequel je me permets de dire juste un mot, c'est que je suis insulino-dépendant. Et ça a marqué ma petite vie, parce que quand l'archevêque de Toulouse, Mgr Coligny, à l'époque, m'avait demandé d'être aumônier après avoir été 22 ans visiteur de prison, j'ai mis un mois avant d'accepter. Parce que je me disais que ma condition d'insulino-dépendant ne permettait pas de pouvoir l'assurer. Et puis non, j'ai accepté, j'ai obéi. Et c'est comme ça que j'ai été amené à rencontrer des tas de gens. Et le soir, j'allais voir quelques anciens détenus que j'avais connus en prison. Et c'est comme ça que l'aventure a continué.
Et il y a quelque chose aussi qui revient dans votre livre, et dès le début, c'est la miséricorde. La miséricorde, une corde tendue à la misère pour ne pas se pendre. Est-ce que ça a été un peu le fil rouge de votre mission en prison?
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que ça, c'est une phrase que m'a dite un condamné en prison. C'est ce qu'il avait compris de notre approche auprès de lui. Parce que, une petite parenthèse, je ne suis pas tout seul. Il y a une équipe d'aumônerie. Donc, il y a des aumôniers laïcs avec moi. On travaille ensemble. Et d'ailleurs, c'est fondamental. On ne fait pas toutes les choses tout seul. Donc, à partir de là, ce sont eux qui m'ont appris beaucoup de choses. Il y en a un jour qui me dit « Fais de ta peine un chant d'amour pour oublier que tu souffres ». C'est aussi une phrase d'un détenu qui m'a dit ça le jour où il est sorti de prison en me disant « J'ai compris ça au sein de l'aumônerie ». C'est un combat assez extraordinaire, très discret. Il ne fait pas de bruit. Le bon Dieu est au centre de tout ça. C'est vraiment lui qui agit. Quand j'arrive devant une cellule, je dis toujours « Seigneur, passe devant ». Dieu aime ceux qui souffrent. Et ça, je le proclame dans mon livre. Je dis à un moment donné que c'est parce qu'il est sur la croix qu'il est à même d'être proche de ceux qui sont dans la misère, dans le laminoir de la misère. Ça ne veut pas dire qu'il ne soit pas responsable de cette misère, bien entendu. Mais il est là pour ne pas les laisser dans le désespoir, car le désespoir est diabolique. Et ce combat contre le diable, je l'explique dans mon livre avec précision, est un combat capital pour pouvoir se réconcilier regarder dans la glace et continuer à servir le Christ avec notre propre maladie, ce qui est mon cas. Ça a permis de se battre pour que Dieu ait toute sa place dans la discrétion de cette misère.
Pour refermer ce magazine, le commentaire de l'évangile de ce dimanche avec le père Pascal Montavi, en la fête de Saint-Pierre et Saint-Paul, évangile selon saint Jean 21, 15-19. Après le repas au bord du lac, Jésus ressuscité dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci ?» Il lui répond, « Oui, Seigneur, je t'aime, tu le sais. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. »
En ce dimanche, nous fêtons la solennité de Saint-Pierre et Saint-Paul. Pierre est désigné par le Christ comme étant celui sur qui sera bâtie l'Église. Paul, quant à lui, est choisi par Dieu pour annoncer aux païens la bonne nouvelle. Dans son plan de salut pour l'humanité, le Seigneur appelle des hommes pour devenir les médiateurs de sa grâce. Voyons dans l'évangile de ce jour comment nous est présenté Saint-Pierre. Jésus demande à ses disciples « Qui est le Fils de l'homme pour les hommes ?» Alors que la foule voit en lui Jean-Baptiste, Élie, Jérémie ou l'un des prophètes, Pierre reconnaît en Jésus le Messie, le Fils du Dieu vivant. Cette profession de foi de Pierre témoigne de la grâce qui lui est accordée. Toutefois, cette grâce n'exclut pas le chemin intérieur de conversion que Pierre doit encore parcourir. C'est là un enseignement important pour chacun d'entre nous. Le Seigneur nous accorde des grâces qui nous font entrer plus profondément dans le mystère de la foi. Nos limites et notre péché demeurent cependant. Par exemple, Pierre assure qu'il ne reniera jamais le Christ. Mais le coq n'aura pas encore chanté que, par trois fois, Pierre aura affirmé ne pas connaître cet homme, celui-là même dont il avait affirmé qu'il était le Fils du Dieu vivant. La grâce ne transforme donc pas instantanément notre nature faible. Mais l'élection de Pierre demeure cependant, car les dons et l'appel de Dieu sont sans repentance. Il en est de même pour nous. Malgré nos chutes, l'élection du Seigneur demeure. Jésus répond à la confession de foi de Pierre en affirmant « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et les puissances de la mort ne l'emporteront pas sur elle. » Il est bon de nous rappeler cette promesse de Jésus. Évidemment, un rapide survol de l'histoire de l'Église nous montre que tous les papes ne furent pas édifiants. N'oublions pas cependant que les 33 premiers papes sont morts martyrs et que deux papes du XXe siècle viennent d'être canonisés. Le Seigneur est fidèle à sa promesse. L'Église sera bien là pour garder le dépôt de la foi jusqu'au retour du Christ. Telle est notre assurance, telle est notre joie. Ensuite, Jésus continue à s'adresser à Pierre en disant « Je te donnerai les clés du royaume des cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Par cette affirmation, Jésus définit le rôle de l'Église qu'il confie à Pierre. Il s'agit d'annoncer que la miséricorde de Dieu est infinie et qu'elle s'adresse à tout homme. L'Église a régulièrement besoin de se recentrer sur l'essence même de sa mission. Annoncer l'amour miséricordieux de Dieu et le salut offert à tous. Après sa conversion, saint Paul n'aura de cesse de proclamer ce grand mystère. Il le fera toujours en communion avec les colonnes de l'Église, comme il le revendique dans l'Épître aux Galates. « Reconnaissant la grâce qui m'avait été départie, Jacques, Céphas et Jean, ses notables, ses colonnes, nous tendirent la main, à moi et à Barnabé, en signe de communion. En ce jour, prions pour être renouvelés dans notre amour de l'Église. Celle-ci est bien plus grande que toutes les imperfections des hommes qui la constituent. Chacun d'entre nous est appelé à se mettre à son service pour être témoin, selon le don qu'il a reçu, de la merveille de l'amour de Dieu. »
Ainsi prend fin ce magazine. Retrouvez-nous sur internet à www.radiovaticana.va et sur Facebook à Radio Vatican en français. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain, où que vous soyez.